Gloire à Dieu. Ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu ? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. » Et ensemble, allons au verset 35 où il est écrit « Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Amen. Voilà, cet après-midi, j'ai eu à cœur de m'arrêter sur ce passage, ce texte des Écritures, de la Bible, la parole de Dieu, afin d'entendre et de recevoir ce que, oui, Dieu veut nous donner, un message. Et bien plus qu'un message, Dieu veut vraiment agir encore aujourd'hui au milieu de nous. Il veut intervenir dans nos vies et dans nos cœurs. Et donc, qu'est-ce que nous voyons dans ce passage que nous avons lu? Premièrement, il est question de Jean-Baptiste. Jean qui baptisait. Jean intrigué. Il était dans le désert. Il était seul dans le désert et il annonçait un message. Et plusieurs personnes venaient à lui. Et en acceptant ce message, se faisait baptiser par lui. Et il y avait plusieurs hommes qui étaient intrigués par cela, qui ne comprenaient pas qui il était et ce qu'il faisait. Ces hommes, on les voit, ce sont des hommes religieux. Il est question de sacrificateurs et de lévites qui ont été envoyés vers Jean. Il était question de juifs, des hommes, je le dis, religieux, qui étaient censés connaître Dieu, mais qui étaient loin de Dieu, qui n'était pas à l'écoute de Dieu, qui ne saisissait pas ce que enseignaient les Écritures, les textes qu'il possédait, parce que Jean va leur répondre, et il va répondre à leurs questions. Leur question était « Toi, qui es-tu » Et ils vont poser par la suite « Que dis-tu de toi-même » Et Jean va répondre « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Et donc, c'est ce que je dis, Jean renvoyait ces hommes à ce que disait l'Ancien Testament, à ce qu'ils étaient censés savoir, connaître, pour comprendre ce que Jean faisait. Parce que il y avait cette parole, ce passage dans Ésaïe chapitre 40 qui dit ceci, la même chose, « Une voix crie, préparez au désert, le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » C'était là ce que faisait Jean. C'était là son service, sa fonction. Il était en quelque sorte comme le porte-parole de Dieu. Il le dit, « Je suis la voix ». C'est particulier de se décrire comme cela. « Je suis la voix, celui qui crie dans le désert ». Il était comme le porte-parole de Dieu qui annonçait un message. Et ce message nous concerne. Et il y a plusieurs points dans ce passage qui sont interpellants. Premièrement, il est question d'une voix qui crie. Et quand une voix crie, c'est qu'il y a un problème. En général, quand on parle l'un avec l'autre, on ne parle pas constamment en criant. Quand on crie, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un problème. C'est que soit on parle à une personne qui est loin, et donc c'est pour se faire entendre, soit c'est que la personne n'entend pas, c'est qu'elle a des problèmes d'audition. Ou soit c'est peut-être parce que je suis en colère et que je veux me faire comprendre aussi d'une manière différente. Ça, c'est autre chose. Dieu nous parle et il crie. Et cela nous montre que eh bien, nous sommes loin de lui parce que ce n'est pas lui qui est loin de nous. La Bible nous dit qu'il est proche de chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit qu'il entend nos cris, que lui est à l'écoute de nos cris. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et plus que de l'entendre, la suite de ce verset nous dit que l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Dieu, lui, est à l'écoute de nos cris et il est proche, il est près de chacun de nous. Mais c'est nous qui sommes loin de lui. Et c'est pour cela que Dieu crie. Et c'est pas une question de décibels, mais c'est une question d'intensité. Dieu est obligé de intensifier, de se répéter, d'être insistant pour se faire entendre, afin que nous puissions comprendre ce qu'il veut nous dire. Et donc, ce message, cette voix, donc, ce que disait, annonçait Jean-Baptiste, c'est cela, il préparait, il annonçait, par le message qu'il annonçait, il préparait au désert le chemin de l'Éternel. Il était question de préparer dans les cœurs de tous ceux qui venaient à lui le chemin de l'Éternel. Parce que Dieu veut venir agir dans nos vies, dans nos cœurs. Parce que Dieu veut venir restaurer, oui, les cœurs brisés. Parce que Dieu veut intervenir afin de délivrer les cœurs qui peuvent être captifs, oppressés. Et c'était là le travail de Jean-Baptiste. Au travers de ce message, il préparait au désert le chemin de l'Éternel. Au désert, là aussi c'est interpellant. C'est au désert que ces personnes eh bien, rencontraient, s'approchaient de Dieu. C'est au désert que ces personnes entendaient la voix de Dieu. Et comme le disait Michael pendant ses chants, il est vrai qu'on peut passer par des moments bien souvent dans la vie compliqués, difficiles, des moments de tempête. Il y a des moments de tempête, des moments où tout chavire, des moments d'épreuves, de difficultés. Et c'est vrai que le désert est l'image spécialement de choses positives. Le désert nous parle de stérilité, de sécheresse, d'épreuves, de difficultés. Le désert nous parle de solitude. Hein, c'est l'image que nous donne le désert. Bien, j'aimerais te dire cet après-midi que malgré le fait que tu peux traverser un désert et te sentir, oui, seul dans ta vie, traverser des épreuves, des difficultés, être dans la sécheresse, être vide, eh bien que tu peux rencontrer Dieu. C'est l'expérience qu'a pu faire David. Nous voyons cette expérience dans le psaume 63. Il est dit « Lorsqu'il était dans le désert de Juda, il put faire cette prière à Dieu et se tourner de cette manière vers Dieu en lui disant « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » C'est dans le désert que, et je vous encourage à méditer la suite de ce psaume, parce que dans ce psaume, on voit David qui est, oui, dans le désert, et c'est dans le désert qu'il va véritablement faire une expérience avec Dieu. C'est dans le désert qu'il va se tourner vers Dieu. Et dans le désert, au lieu de s'apitoyer, au lieu de s'abattre, au lieu de se décourager, il va prendre la décision de chercher Dieu. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Et la Bible nous dit que, eh bien, quels que soient nos déserts, quelles que soient nos difficultés, nos épreuves, la Bible nous dit que quand on cherche Dieu, on le trouve. C'est certain que celui qui le cherche de tout son cœur le trouve. Et cet après-midi, eh bien, cherche Dieu, oui, cet après-midi, dans ce moment, cherche-le, en t'approchant de lui, par la foi, en ouvrant ton cœur, cherche-le, et tu verras Dieu agir et intervenir, même si aucune des circonstances de ta vie ne change. Parce qu'on peut passer par des circonstances difficiles, mais dans notre cœur, tout peut changer. Et c'est là ce que Dieu veut faire. Les circonstances peuvent rester les mêmes, mais si tu fais ce pas de foi, tu expérimenteras vraiment la grâce de Dieu et l'abondance. L'abondance de sa vie en toi, de sa bénédiction. Et tu expérimenteras vraiment que, bien dans le désert, oui, ça peut être un lieu de sécheresse, ton cœur peut être, oui, dans la sécheresse, mais si tu fais ce pas de foi, tu expérimenteras que même dans le désert, tu peux être comblé. Être comblé et rassasié, parce que seule la présence de Dieu, seule la présence de Jésus-Christ peut combler nos vies, peut combler nos cœurs. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie cet après-midi. C'était donc là ce que faisait Jean-Baptiste. Il préparait au désert le chemin du Seigneur, afin que les cœurs de tous ceux qui s'approchaient de Jean-Baptiste à ce moment-là soient préparés à rencontrer Dieu, préparés à rencontrer Jésus-Christ. Parce qu'il y a aussi ce mot qui est là, qui est interpellant. Préparer, il préparait le chemin de l'Éternel. Et le Seigneur nous appelle à nous préparer. Si Dieu nous appelle à nous préparer, c'est que nous en avons besoin. Et prenons en compte vraiment la parole de Dieu cet après-midi pour chacun de nous. Il nous avertit par amour, par compassion. Et il y a là vraiment une invitation à nous préparer, à venir et à nous approcher de lui. Il y a ce verset dans Amos, dans la parole de Dieu, dans Amos chapitre 4, verset 12, qui nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Il est certain que nous le rencontrerons tous. C'est certain. Nous le rencontrerons tous. La Bible nous dit qu'un jour, tout genou fléchira devant Dieu. Et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Mais il y a une différence entre ceux qui l'auront accepté et ceux qui auront eu cette attitude dès ici-bas, dès maintenant, aujourd'hui, qui auront accepté de se préparer avant de le rencontrer, bien par la suite, avant de le rencontrer où nous serons, et oui, devant lui, en ce jour où il jugera chaque être humain, où nous passerons devant lui. Et il y a une grande différence entre ces personnes qui auront accepté dès maintenant de fléchir les genoux devant Jésus, de s'humilier pour l'accepter et le recevoir. Parce que ceux-là seront sauvés, seront par la suite avec lui et le verront, oui, face à face, mais pour l'éternité, dans sa présence, dans la paix, dans le royaume de Dieu. Et pour tous ceux qui ne l'auront pas accepté, ils confesseront eux aussi et ils déclareront, ils reconnaîtront que Jésus-Christ est Seigneur, mais ils iront dans un lieu de perdition, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents pour l'éternité. Prépare-toi, cet après-midi, prépare-toi. Et prépare-toi à rencontrer Dieu cet après-midi. N'attends pas de le rencontrer après ta mort, en ce jour où on passera devant lui, mais prépare-toi dès aujourd'hui, dès maintenant. Alors comment se préparer? Comment se préparer plus concrètement? On a vu plusieurs points déjà qui nous parlent. Le fait de chercher Dieu, le fait de nous tourner vers lui, le fait de crier à lui. Mais il y avait ce message de Jean-Baptiste qui a mené cette préparation essentielle, qui est incontournable, et qui nous amène à vraiment être prêts à rencontrer Dieu. C'était son message. Et il nous est dit, dans Matthieu chapitre 3, il nous est dit son message, il nous est dit ce qu'il disait. Il est dit, dans Matthieu 3, verset 1er, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà ce que disait Jean-Baptiste à tous ceux qui venaient à lui. C'était son message. Il était simple, il était clair. Repentez-vous. Demandez à Dieu pardon pour tous vos péchés. Changez de conduite, changez de comportement. Ceux qui avaient des attitudes malhonnêtes étaient appelés à marcher dans l'honnêteté. Ceux qui étaient des voleurs étaient appelés à rendre ce qu'ils avaient volé, à mettre leur vie en règle et à ne plus voler. Ceux qui étaient des menteurs étaient appelés à arrêter de mentir et à parler selon la vérité. C'était ce que Jean-Baptiste annonçait. Il disait à tous ceux qui venaient à lui, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ce n'était pas juste de simplement demander pardon du bout des lèvres. Il devait y avoir une attitude de cœur, un changement. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent demander, oui, pardon à Dieu du bout des lèvres. Mais rester loin de Dieu, rester dans leur vie et ne pas écouter ce que Dieu veut faire et ne pas écouter la volonté de Dieu. Et Dieu nous appelle à vraiment, pour que cette démarche soit sincère, à avoir une repentance profonde, une repentance du fond de notre cœur, à lui demander pardon de tout notre cœur et à changer. Et c'est là cette attitude qu'il nous faut avoir pour nous préparer à la rencontre de Dieu. Et quand on fait ce pas de foi pour nous approcher de Dieu, pour crier à lui, oui, par rapport à nos besoins, mais quand on fait ce pas de foi en nous repentant, eh bien, il vient à notre rencontre dès aujourd'hui, dès maintenant. Il vient et il restaure. Il restaure et il agit dans nos vies, dans nos cœurs. Il libère nos cœurs et il met sa paix. Et il nous donne de le connaître. Il y avait cette parole que Jean-Baptiste a pu dire à ces hommes qui étaient là, qui lui ont posé des questions. Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et cette personne, c'était Jésus-Christ. Et cette parole est encore valable pour chacun de nous aujourd'hui, cet après-midi. Il y a quelqu'un au milieu de nous que vous ne connaissez pas. Il y a quelqu'un au milieu de nous que vous ne connaissez pas, mais qui vous connaît. Parce qu'il y a peut-être des personnes ici dans ce lieu, des personnes que vous voyez de vos yeux physiques, que vous ne connaissez pas mais qui ne vous connaissent pas non plus. Mais il y a une très grande différence avec cette personne que vous ne connaissez pas parce qu'elle vous connaît. Et elle connaît votre cœur, elle connaît vos besoins, elle connaît vos fardeaux, vos peines, elle connaît tout ce qu'il y a au fond de vos cœurs. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Il est celui qui vous connaît. Et il n'est pas un simple homme. Il est venu comme un simple homme, ici-bas, répondre à tous nos besoins, aux besoins les plus profonds de notre cœur. C'est ce que Jean-Baptiste a pu exprimer par la suite en disant: c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. C'est étonnant parce que quand on regarde la manière dont Jean-Baptiste est né, nous voyons que c'est 6 mois après que Jésus-Christ est né, que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Jean-Baptiste dit à ce moment-là, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et c'est ce qui nous donne de comprendre qui est Jésus-Christ véritablement. Jean-Baptiste a pu le reconnaître, a pu le réaliser, a pu réaliser que Jésus-Christ était celui qui était avant lui, bien avant lui, qui était celui qui était de toute éternité. Il a pu réaliser que Jésus-Christ était l'envoyé de Dieu. Et il y a ce passage dans la Bible qui nous parle et qui nous montre justement qui est Jésus-Christ. Il est écrit dans Philippiens 2:6, « Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et il apparut comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lui dont la condition était celle de Dieu. Jean-Baptiste a pu dire par ailleurs, voici l'agneau de Dieu. Et il a pu réaliser, oui, pourquoi Jésus-Christ était là et pourquoi il venait. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet après-midi, réalise ce message, réalise cette parole par rapport à Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jean-Baptiste disait là, la plupart des personnes qui l'entouraient étaient des Juifs et ils comprenaient très bien ce que Jean-Baptiste disait quand il parlait d'agneau. Parce que dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, il est question de sacrifices. Et à plusieurs reprises, on voit le peuple d'Israël offrir à Dieu des sacrifices, et particulièrement des agneaux, pour recevoir de Dieu le pardon de leurs péchés. Et quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », cela faisait référence à ces sacrifices. Cela faisait référence aussi à ce moment particulier où le peuple de Dieu avait été libéré de l'esclavage en Égypte. Alors que le peuple de Dieu était esclave en Égypte depuis plus de 400 ans, Dieu avait entendu et avait vu la condition de son peuple et avait fixé un temps pour le libérer, était intervenu. Et pour cela, il y avait eu plusieurs plaies qui avaient été envoyées sur le pays d'Égypte. Et la dernière plaie allait être la mort qui allait passer, qui allait frapper tous les premiers-nés de tous ceux qui étaient là en Égypte. Tous les premiers-nés, que ce soit des animaux, que ce soit des humains. Il y avait une condamnation qui était là. Cela était pour avertir, parce qu'il y avait le cœur du Pharaon qui était lui aussi endurci et qui n'était pas du tout à l'écoute de Dieu, mais qui était bien loin de Dieu, qui n'entendait pas et qui n'acceptait pas ce que Dieu voulait faire. Et c'est pour cela qu'il y avait ces plaies qui tombaient sur le pays d'Égypte. Mais il y avait une solution. Il y avait une solution pour tous ceux qui l'accepteraient. Cette solution, c'était de sacrifier un agneau. De prendre un agneau et de prendre du sang de cet agneau, un agneau d'un an, il fallait que ça soit un agneau d'un an sans défaut, et prendre le sang de cet agneau, le sacrifier, et mettre de ce sang sur le linteau et les poteaux des portes. Et que tous ceux qui auraient fait ce pas de foi, tous ceux qui auraient obéi à l'Éternel, eh bien seraient épargnés de cette condamnation. Et il y a eu cette plaie qui est tombée, et partout là où il n'y a pas eu ce sang qui était là, bien, la mort a frappé. Et il est vraiment important de comprendre cela. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est important de comprendre que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ est cet agneau qui a été sacrifié pour nous à cause de nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés, recevoir de Dieu le pardon de nos péchés. Hein, tous ces sacrifices dans l'Ancien Testament annonçaient ce grand sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ, de Dieu lui-même, fait homme, pour nous secourir et pour nous sauver. Et aujourd'hui, nous avons le même choix qu'au temps que dans ce temps-là, au temps des Hébreux qui étaient esclaves en Égypte. Hein, ce choix de choisir, et bien de faire ce pas de foi, d'accepter le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nos vies, pour nous laver, pour nous purifier et pour être sauvés, afin d'être préparés à rencontrer Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet après-midi, si tu fais ce pas de foi, le Seigneur est celui qui ôtera le péché de ta vie, le péché de ton cœur, afin que tu sois libéré, réellement libre, afin que tu lui appartiennes, afin que, bien oui, tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle, que tu sois restauré. Alors cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière pour terminer. J'aimerais vraiment qu'on puisse se tenir devant Dieu dans ces moments, afin de répondre à ce message. Seigneur nous appelle à nous préparer, et le Seigneur t'appelle cet après-midi à ne pas remettre à demain cette préparation, mais à te préparer aujourd'hui, à passer par la repentance, à placer ta foi en Dieu, ta foi en Jésus-Christ, à l'accepter, à le recevoir dans ta vie, dans ton cœur, à ne pas t'endurcir. mais à t'approcher de lui, à faire une expérience, vraiment. Parce que tous ceux qui s'approchent de lui, oui, font cette expérience d'être restaurés, d'être sauvés, d'être bénis, d'être guéris. Alors cet après-midi, viens, approche-toi de Dieu, dans ce temps, sur ta chaise, simplement. Repens-toi, accepte-le dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Réalise ce si grand sacrifice, réalise l'amour de Dieu pour ta vie, réalise sa compassion où il te connaît et il sait le fond de ton cœur, il sait ce dont tu as besoin, il veut te sauver et il veut répondre à tes besoins, il veut combler le vide de ton cœur. Et pour cela, cet après-midi, approche-toi de lui. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce que tu fais aujourd'hui encore. Nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te rendons grâce pour cette bonne nouvelle. Nous te rendons grâce pour ton amour. Nous te rendons grâce parce que tu nous as tant aimés, au point de donner ta vie, au point de donner ton Fils unique, Jésus-Christ, à la croix pour chacun de nous, afin que nous ne périssions pas, mais afin que nous ayons la vie éternelle. Nous qui ne méritons rien, tu nous as tout donné, tu t'es donné entièrement. Seigneur, je te prie encore dans cet après-midi d'agir dans les vies, dans les cœurs de tous ceux qui sont loin de toi, de tous ceux, Seigneur, qui ont du mal à entendre et à saisir ta voix. Je te prie de te révéler dans les cœurs maintenant. Par ton esprit, je te prie de libérer, de délivrer. Je te prie de guérir, de restaurer, d'étendre ta main et de manifester ta présence. Oui, parce que nous le savons, tu es là présent au milieu de nous et tu agis encore aujourd'hui. Tu agis au travers de ta parole. Tu agis, Seigneur, dans les cœurs. Tu agis dans les cœurs de tous ceux qui s'ouvrent à toi, dans les cœurs de tous ceux qui s'approchent de toi. Merci pour tout ce que tu fais encore dans cet après-midi. Merci parce que tu sauves, oui, parce que tu libères, parce que tu guéris. Amen.